Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, si vous venez régulièrement, vous savez que nous sommes dans une série dans Philippiens et on arrive vers la fin de la lettre de Paul aux Philippiens. Et aujourd'hui, nous regardons Philippiens 4, versets 4 à 9. Mais avant de commencer ce message, je vais prier pour vous et je vous demanderai de prier pour moi aussi. Père Céleste, nous venons devant toi, Seigneur, pour regarder ce que ta parole va nous enseigner ce matin. Je te prie que tu utilises ce que j'ai préparé pour parler à toutes les personnes qui sont ici présentes. Seigneur, touche nos cœurs, parle-nous, donne-nous d'entendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, et de ne pas l'oublier, mais de répondre et de le mettre en pratique. Seigneur, je veux te prier que nous ressortions de ce culte en ayant conscience que nous pouvons venir à toi avec tous nos problèmes, que nous pouvons avoir la joie et la paix que tu nous offres. Au nom de Jésus. Amen. Donc Philippiens 4, 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais, en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Ce matin, je souhaite te poser une question très simple. De quoi as-tu besoin pour être joyeux et en paix? Y as-tu déjà réfléchi? Ce que ce passage nous dit ce matin, et ce que je souhaiterais vous montrer, c'est que Dieu désire que nous soyons joyeux et en paix. Et nous allons essayer de voir comment cela est possible. En préparant ce message, je me suis mis à réfléchir sur la joie, le bonheur et d'autres mots associés. Et en quelques clics, j'ai élaboré ce graphe. Bon, alors c'est pas très clair, mais en abscisse, on a les années de 1600 ici à 2008 ici. Et en ordonnée, c'est la fréquence d'apparition de certains mots dans la littérature, dans les écrits qui ont été imprimés. Et la courbe en rouge, que vous voyez ici, avec un beau pic, c'est la fréquence d'utilisation du mot « bonheur ». Et ce pic, est-ce que vous pouvez deviner à quelle date ça correspond? Si 1600, c'est ici, et 2008, c'est ici.
1800.
Presque. C'est 1789, la Révolution française. Intéressant comme corrélation quand même. On s'est mis à beaucoup parler du bonheur aux alentours de la Révolution française. Pourquoi? En 1789, le gros problème, les gens, ils n'étaient pas heureux à cause de l'oppression de l'Église et de la noblesse. Et en s'émancipant de ce carcan, le peuple allait accéder au bonheur. Mais est-ce que ça a vraiment marché?
C'est vite descendu.
On n'en parle plus beaucoup. Donc il y a deux solutions. Soit ça n'a pas marché, soit ça a marché et on n'en parle plus. Je pense que 200 ans après, on peut avouer que s'émanciper de la noblesse et de l'Église n'a pas résolu tous nos problèmes et n'a pas apporté le bonheur à tous. Aujourd'hui, ce ne sera plus la noblesse ou l'Église. En fonction de à qui vous adressez, le plus gros obstacle au bonheur dans le monde, ce sera soit la famine, soit l'illettrisme, soit la pauvreté, soit l'absence des droits de l'homme, la non-égalité de l'homme et de la femme, le racisme, le nationalisme, et je pense qu'on pourrait en citer encore beaucoup d'autres. Ce sont pour la plupart des causes nobles, mais tout comme la Révolution française, aucune de ces causes, si on arrive à solutionner la faim dans le monde, la pauvreté, n'apportera le bonheur universel. Car ce contre quoi ces causes luttent, ce ne sont que les symptômes d'un mal plus profond, le péché. Ce que Paul nous dit dans ce passage, c'est que la joie et le bonheur véritable qui durent ne peuvent se trouver que dans le Seigneur. Au début de ce passage, Paul rappelle aux Philippiens de se réjouir dans le Seigneur. Je dis rappel parce que si vous vous rappelez bien, au chapitre 3 de la même lettre aux Philippiens, Paul disait déjà, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais ici, déjà c'est remarquable, c'est qu'il le répète une deuxième fois dans la même lettre, et il le répète deux fois dans la même phrase. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est que ça doit être important. Et il y a un petit mot qu'il a rajouté par rapport au chapitre 3. Le toujours. C'est un peu paradoxal, non? De nous dire d'être toujours joyeux. La joie, par définition, c'est éphémère. C'est un sentiment de bonheur intense qui ne dure pas. Mais Paul nous appelle à nous réjouir en permanence dans le Seigneur. Et la clé de cette joie, c'est précisément qu'elle ne trouve pas sa source en nous, ni dans ce monde, mais dans le Seigneur Jésus-Christ. Contrairement au monde, dont la joie nous fait oublier les problèmes quelques instants, Christ nous a acquis une joie qui ne pallie pas, car elle apporte une solution au plus grand de nos problèmes, le péché. Et ce matin, si tu es chrétien, tu peux te réjouir tous les jours, pour deux raisons. Parce que ton état présent est fait infiniment meilleur que ton état passé, et deuxièmement, notre destinée éternelle est encore plus merveilleuse que notre état présent. Donc je vais essayer d'expliquer ces deux points. La première raison que nous avons d'être joyeux, c'est que Christ nous a donné la vie. Il nous a affranchis, libérés du poids de notre péché et adoptés dans la famille de Dieu. Avant notre état passé, nous étions pécheurs. Nous voulions satisfaire nos propres désirs plutôt que d'obéir au bon commandement de Dieu. Nous vivions pour nous-mêmes, cherchant à naviguer la vie par nos propres forces, à être acceptés des autres et de Dieu par nos propres efforts. Mais tout cela était en vain, car Dieu, qui est parfait et saint, ne peut pas accepter des hommes impurs, souillés dans sa présence. La seule réponse que Dieu pouvait faire à notre état, c'était de nous condamner justement à la mort éternelle. Mais la Bible nous explique que Christ est venu payer le prix pour nos fautes. Et Thierry nous l'a déjà rappelé ce matin. Il a pris sur lui la condamnation qui nous était destinée, afin que nous puissions être revêtus de sa justice et acceptés par Dieu. Et ce matin, si tu as reconnu tes péchés et confessé que Christ est la seule solution, alors Dieu te promet que tes péchés sont pardonnés. Et nous pouvons être joyeux aujourd'hui, car nous n'avons plus à craindre le châtiment de nos âmes. Nous nous savons pardonnés, graciés par Dieu. Et nous pouvons avoir confiance dans notre salut, car le pardon ne nous est pas acquis par nos propres moyens, par nos propres œuvres qui sont faillibles, mais par l'accomplissement du plan infaillible du Dieu qui a créé toutes choses et qui règne sur toutes choses. Face aux attaques du diable, qui tente de nous faire chuter, qui tente de nous voler notre joie en nous disant « Hey Coco, tu crois vraiment que Dieu va t'accepter après ce que tu as fait là, il y a 5 minutes ?» Ou ce que tu as fait il y a 20 ans ? Nous pouvons répondre « Oui, Dieu va m'accepter, car mon adoption par Dieu ne dépend pas de ce que j'ai fait ou de ce que je ferai, mais de la décision de Dieu qui a accompli son plan pour me sauver et du sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui a payé le prix à ma place. » Nous pouvons être joyeux, car Christ a offert sa vie à la croix pour que nous passions de la mort à la vie, que nous soyons libérés de l'esclavage du péché, pour que le Père puisse nous adopter comme ses enfants. La simple comparaison de notre état présent, que je viens de décrire, à notre état passé, devrait nous remplir d'une joie qui dure. Mais la deuxième raison que nous avons de nous réjouir, c'est en regardant dans le futur, à l'espérance que nous avons, à notre situation future avec Dieu au ciel pour l'éternité. et ça devrait également être pour nous une source de joie. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous sommes encore soumis aux aléas de ce monde, aux vicissitudes, à la souffrance, à la malhonnêteté, à la persécution, à la médisance. Vous voyez bien de quoi je parle. Mais nous savons que tout ceci n'est que temporaire, qu'un jour nous serons avec Christ, dans sa gloire, et que toute souffrance, toute injustice seront oubliées dans la présence de Dieu. Nous savons que rien ne peut nous enlever notre espérance, que Christ est notre défenseur. C'est lui qui a le pouvoir et l'autorité pour juger toute chose. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous pouvons être conciliants. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le passage, il nous dit que votre attitude conciliante soit connue de tous. Nous pouvons être conciliants parce que nous possédons un trésor qui vaut plus que toute autre chose. Nous n'avons plus besoin ici-bas de batailler pour accumuler des richesses, pour avancer plus vite que les autres, pour être acceptés par Dieu. Nous savons que Dieu nous a acceptés, que tout ce que nous accumulons sur cette terre, nous ne pourrons pas l'emporter au ciel. Nous sommes conciliants et généreux, car nous savons que Christ est proche, que Christ reviendra pour juger cette terre et que nous passerons l'éternité avec lui, et que tout ce que nous avons accumulé n'a aucune valeur vis-à-vis de l'éternité. Cette joie et cette attitude conciliante viennent de ce que Christ a fait pour nous à la croix, mais aussi de l'espérance que nous avons d'être un jour dans la glorieuse présence du roi des rois. Si aujourd'hui nous acceptons de souffrir un peu, c'est parce que nous savons que notre trésor et notre patrie sont au ciel. Alors lorsque vous manquez de choix, lorsque les soucis, les difficultés mangent votre joie, rappelez-vous de ce que Christ a fait pour vous et de la place qu'il nous prépare au ciel, auprès de son Père. Mais Paul nous donne une deuxième arme pour attaquer les inquiétudes, pour conserver cette joie. C'est la prière. Il nous dit au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Et je pense que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que c'est très compliqué d'être à la fois rempli de joie et d'inquiétude. Les inquiétudes, les soucis viennent ronger la joie qu'on a. Et nous sommes tous en proie au doute et à l'inquiétude. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude vient de notre incapacité à connaître le futur. Si nous connaissions le futur, si nous savions ce qui allait se passer, nous ne serions plus inquiets. Et comme nous cherchons naturellement à donner un sens à ce qui se passe, et que nous avons les capacités pour imaginer tout ce qui pourrait se passer ou pas dans le futur, nous nous inquiétons. Nous voulons nous assurer que nous avons tout prévu, que notre famille, notre maison, notre voiture, notre épargne seront toujours là demain, après-demain et dans 10 ans. Mais comment faire ? Vers quoi te tournes-tu ? Vers qui te tournes-tu pour cela ? Et s'il n'y avait qu'une chose à sauver, qu'est-ce que ce serait ? Si on se tourne vers notre société, elle nous dit aujourd'hui, tu ne veux pas être inquiet ? Tu ne veux pas avoir de soucis ? Mets beaucoup d'argent de côté. Comme ça, tu seras prêt si t'arrive quelque chose. Achète une assurance pour ta voiture, pour ta maison, pour ta vie. Comme ça, tu auras beaucoup d'argent si t'arrive quelque chose. Mais la réponse de Paul est totalement différente. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais priez. Et bien souvent, on a des difficultés à prier. Et pourquoi est-ce qu'on a tellement de difficultés à prier ? Je vous propose 3 raisons. Nous avons des difficultés à prier, ou nous ne prions pas, parce que nous croyons pouvoir nous en sortir tout seuls. Nous doutons que Dieu est vraiment tout-puissant. Ou nous ne croyons pas que Dieu s'occupe, ou nous croyons que Dieu ne s'occupe que des gros problèmes et pas de nos petits soucis. Premièrement, nous ne prions pas parce que nous croyons pouvoir nous en sortir tout seuls. Nous ne voulons pas reconnaître notre impuissance à contrôler les situations et leurs issues. Au fond de notre cœur, nous sommes tous orgueilleux. Et c'est difficile de reconnaître que nous avons besoin d'aide, que nous n'y arrivons pas tout seuls. Nous ne voulons pas paraître faibles. Mais ce que Paul souligne ici, c'est que nous avons besoin d'aide dans tous les domaines, parce qu'il nous dit de prier en toute chose. Prenons une image biblique pour illustrer ce principe. Il y a des nourrissons là au fond de la salle. Un nourrisson, il a besoin de ses parents en toute chose. Si on le laisse tout seul, il ne peut plus rien faire. Et la Bible nous encourage à être comme des petits-enfants. Pas forcément comme des nourrissons, mais comme des petits-enfants dans notre prière. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire avoir une totale confiance dans notre Père, dans sa capacité à nous donner ce dont nous avons besoin, de persévérer dans nos demandes jusqu'à ce que nous l'obtenions. Et moi, je me rappelle très bien, quand j'étais enfant, que je voulais une boîte de Lego spécifique. Je savais très bien aller voir mes parents et leur dire « C'est cette boîte de Lego que je veux. » Et je savais persévérer pour leur dire « Vous vous rappelez, c'est cette boîte de Lego que je veux. Pourquoi » Pourquoi? Parce que j'avais conscience que cette boîte de Lego, il n'y a que mes parents qui pouvaient me l'offrir. Je ne pouvais pas aller au magasin, je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas aller au magasin pour m'acheter la boîte de Lego. La seule façon d'obtenir cette boîte de Lego, c'était en allant vers mes parents. Et je sais que mes parents m'aimaient et qu'ils me donnaient ce qui serait bon pour moi. C'est ce type d'enfant-là que Dieu veut que nous imitions quand nous prions. Mais bien souvent, nous nous comparons à un autre enfant. On va l'appeler Arthur. Alors Arthur, il jouait avec des feutres et puis il a fait une petite tache sur le mur. Toute petite comme ça, pas plus grosse qu'une pièce de 1 centime. Mais au lieu d'aller voir son père ou sa mère pour dire « Papa, maman, j'ai fait une tache sur le mur. » Il se dit « Ah, mais je sais ce que je vais faire. » Il va à la cuisine, prend une éponge avec de l'eau, et puis il va sur le mur et il commence à frotter. Et la petite tache qui était petite comme ça, elle devient grosse comme ça. Et là, c'est trop tard pour cacher. Au lieu d'effacer la tâche, il empire la situation. Et souvent, on se comporte plus comme Arthur que comme le premier enfant vis-à-vis de notre Père Céleste. On essaye de résoudre nos situations par nos propres moyens. Parce que nous croyons pouvoir être en contrôle, parce que nous avons confiance dans nos capacités. Et trop souvent, la situation se dégrade. Et nous ne tournons vers notre Dieu, notre Père Céleste, que quand la tâche est devenue immense et que nous ne pouvons plus rien faire. Et nous devons nous rappeler que nous sommes impuissants, mais que notre Père Céleste, lui, est tout puissant. Et c'est le deuxième point. Notre Père Céleste est tout puissant et il s'occupe de tous nos problèmes. Nous oublions que Dieu est un bon Père qui peut tout faire et qui veut tout faire pour notre bien. Et ça, c'est que nous avons une mauvaise vision de Dieu. Nous devons nous rappeler qu'il s'intéresse à nous, qu'il sait ce dont nous avons besoin mieux que nous, qu'il connaît notre situation et qu'il est rempli d'amour et de compassion pour nous. Jésus nous affirme que Dieu connaît le nombre de cheveux sur chacune de nos têtes. Jésus nous affirme que Dieu s'occupe des fleurs, des petits oiseaux. À combien plus forte raison s'occupera-t-il de nous? La Bible nous promet que Dieu prendra soin de ce dont nous avons besoin, au point de vue matériel et au point de vue spirituel. Mais alors comment faire quand nous avons du mal à prier, quand nous n'avons pas cette habitude de prier? Eh bien la réponse est simple, prie, prends du temps et prie. Et je vous invite à prier aux Açores. C'est un petit moyen mémotechnique. Açores, c'est pour 4 étapes. Quand vous priez, commencez avec le A pour adoration. Continuez avec le Ko de la confession. Puis le Re des remerciements. Et finalement le S de la supplication. Les 3 premières étapes, l'adoration, la confession, les remerciements, nous permettent précisément de corriger ce problème, cette mauvaise vision que nous avons de nos capacités et cette mauvaise vision que nous avons de notre Père Céleste. Alors regardons les 4 étapes. Le A pour adoration. Nous commençons par reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est créateur, qu'il est souverain. Nous lui rendons louange, honneur et gloire. L'adoration nous permet de nous rappeler que Dieu n'est pas trop petit pour agir. Deuxièmement, le co pour confession. Nous reconnaissons dans la confession honnêtement nos fautes, notre péché. Nous reconnaissons qu'elles sont graves car elles font du mal aux autres et car elles offensent Dieu. La confession, c'est de reconnaître véritablement que le péché dans notre vie nous rend tristes, que nous voulons changer, que nous voulons être conformes à ce que Dieu a prévu pour nous. La confession permet de nous rappeler que nous sommes impuissants dans beaucoup de situations et que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Le re pour remerciement ou action de grâce dans le passage. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait. Nous remercions Dieu spécifiquement pour les diverses bénédictions que nous avons vues dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Faire cela, ça nous rappelle que Dieu écoute, s'intéresse à nous et répond à nos prières. Et finalement, une fois qu'on a recadré notre vision de nous-mêmes et de Dieu, nous pouvons nous approcher de lui pour lui faire part de nos supplications. Nous pouvons prier pour nos besoins et ceux des autres. Alors la prochaine fois que vous priez, rappelez-vous des assorts. Adoration, confession, remerciement, action de grâce et supplication. Mais vous allez me dire, quand devons-nous prier et pourquoi ? Alors le quand, c'est toujours. On ne le voit pas directement dans ce passage, quoique il nous dit que nous devons nous réjouir sans cesse et que de ne pas nous inquiéter. Donc si on doit se réjouir sans cesse, on doit ne pas s'inquiéter sans cesse, ou toujours. Et donc on doit prier toujours. Mais il y a d'autres passages de la Bible, notamment dans Éphésiens, qui le disent clairement. Priez en tout temps, Éphésiens 6, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Pour moi aussi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le ministère de la bonne nouvelle pour laquelle je suis ambassadeur dans les chaînes. Que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Si nous avons réellement conscience de notre faiblesse, de notre impuissance et de la bonté de notre Père Céleste, alors nous communiquerons fréquemment avec lui. Nous maintenons la ligne ouverte, l'informant de ce qui se passe sans attendre d'être dans une situation désespérée. Encore une fois, un enfant va partager avec ses parents tout ce qui se passe dans sa vie. De la même manière, nous pouvons partager tout ce qui se passe dans nos vies avec notre Père Céleste. Smith Wigglesworth, un évangéliste britannique connu pour sa vie de prière, un jour surprit l'assemblée qu'il écoutait en disant « Je ne prie jamais plus de 20 minutes de suite ». Étonnant pour un homme de prière. Et l'assemblée lui a dit, mais comment ça se fait ? Il a dit, je ne prie jamais plus de 20 minutes de suite, mais je ne passe jamais plus de 20 minutes sans prier. C'est pas la longueur de nos prières qui est importante, mais la fréquence. Nous ne prions pas pour être écoutés des autres, pour prier de belles prières longues et préparées, mais pour communiquer avec notre Père Céleste. Et c'est la même manière. Dans la famille, vous vous parlez. Vous ne vous mettez pas un créneau avec votre femme ou votre mari une heure par semaine pour parler de tous les problèmes ou de toutes les joies. Mais non, vous parlez, vous vous envoyez des SMS, vous vous parlez le soir, autour du repas, à d'autres moments. Et bien avec notre Père Céleste, c'est pareil. Et deuxièmement, ce que Paul nous dit ici, c'est que nous devons prier pour toute chose. Et parfois nous avons, oui, cette difficulté à croire que Dieu s'intéresse à tout. Mais il n'y a pas de domaine de notre vie pour lequel Dieu n'a pas d'intérêt. Et si Dieu n'est pas avec nous, alors nous nous épuisons, nous travaillons en vain. La Bible nous encourage vraiment à demander à Dieu ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin. Et ceci dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Et si l'on regarde les prières qui nous sont relatées dans le Nouveau Testament, il y en a bien plus qui parlent du monde spirituel et des besoins spirituels que des besoins matériels. un exemple en Éphésiens, chapitre 1. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Et donc si on a du mal à prier, on peut venir vers notre Père Céleste et confesser que nous avons du mal à prier. Lui demander qu'il se révèle à nous, qu'il nous montre sa grandeur, son amour, qu'il nous donne de s'attacher à lui, de ne pas faire confiance à nos propres forces, mais de lui faire confiance à lui. Et quel sera le résultat de cette prière? Si nous revenons au texte, il nous dit « Priez et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » C'est étrange. La première chose qu'on pense, c'est « Priez et vous serez exaucés. » Ça, Jésus le dit autre part. Mais là, c'est « Priez et la paix de Dieu sera avec vous. » Priez, c'est donc le moyen de recevoir la paix de Dieu et de demeurer fidèlement sous le couvert de la justice de Christ. En priant, nous nous déchargeons de nos fardeaux et nous récupérons la paix que Dieu nous donne. Cette paix, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir dans le monde. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. Elle efface notre anxiété. Et c'est là qu'on voit le lien avec la joie. La paix de Dieu nous permet de résider, de demeurer dans la joie. Parce qu'elle efface notre anxiété. Elle fixe nos yeux sur ce que Christ a fait, sur ce que Dieu a fait pour nous. Et on n'est plus occupé à imaginer tous les scénarios catastrophes, mais on sait que Dieu est avec nous et pour nous. Finalement, relisons la dernière partie de ce passage. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique, et les dieux de la paix sera avec vous. Paul fait ici deux listes. La première au verset 8, qui sont plus des noms, et la deuxième au verset 9. Sont plus des verbes. La première liste, c'est tout ce qui est reconnu comme bon par la société de l'époque. Paul nous encourage à ce que nos collègues, nos voisins disent « Cet homme ou cette femme est un homme bon. » Si nous voulons demeurer attachés à Christ, nous devons non seulement prier, mais vivre selon ce que le monde dit être bon, et vivre en suivant l'exemple d'autres chrétiens avant nous. Tout comme dans le monde physique, où l'alimentation et l'exercice sont indissociables pour être en bonne santé, dans le monde spirituel, nous devons veiller à notre nourriture, nous devons veiller à ce qui rentre dans nos pensées, dans ce que nous regardons, dans ce que nous écoutons. Et le chrétien... Et une vie qui est marquée par la prière véritable et aussi marquée par une attention à ce qui est notre nourriture. Nous ne pouvons pas nous nourrir de tout ce qui se passe à la télé, des images de nudité, de sexe, de la convoitise de l'argent et espérer pouvoir une relation avec Dieu. Mais la deuxième partie, il nous dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. La bonne nouvelle dans ce verset, c'est que nous ne sommes pas tout seuls. Christ nous a donné sa parole, mais Christ nous a également donné des exemples de chrétiens au travers des âges qui ont vécu fidèlement, de façon sainte. Ne les oublions pas en pensant que nous savons mieux qu'aujourd'hui, on a plein de technologies, qu'on connaît bien mieux, qu'on comprend bien mieux, qu'on est bien plus intelligent qu'eux. Mais au contraire, Intéressons-nous à leur vie, à leur habitude, aux disciplines qu'ils pratiquaient. Si vous le faites, vous verrez qu'ils avaient compris ce dont Paul nous parle ici, qu'ils étaient imprégnés par la parole et que leur vie de prière démontrait leur dépendance au Père. Et je veux terminer en vous citant un message que David Livingstone, le grand missionnaire en Afrique, a donné à des étudiants à Cambridge vers la fin de sa vie. « Pour ma part, je n'ai jamais cessé de me réjouir que Dieu m'ait nommé à un tel poste. Les gens parlent du sacrifice que j'ai fait en donnant une grande partie de ma vie en Afrique. Est-ce un sacrifice qui apporte sa propre bénédiction par une activité saine, la conscience de faire le bien, la paix d'esprit et le brillant espoir d'un destin glorieux par la suite ? Oh, combien éloignés de la parole sont une telle vue et une telle pensée ! Ce n'est en toute certitude pas un sacrifice, je dirais plutôt que c'est un privilège. L'anxiété, la maladie, la souffrance ou le danger de temps en temps, avec un renoncement aux commodités et aux charités communes de cette vie, peuvent nous faire une pause et faire vaciller l'esprit et faire sombrer l'âme. Mais ceci sera seulement pour un moment. Tout cela n'est rien comparé à la gloire qui sera révélée en nous et pour nous. Je n'ai jamais fait de sacrifice. Ce matin, nous avons vu que Christ veut que nous demeurions dans la joie, que nous demeurions dans la paix. Et l'un des moyens d'avoir cette joie et cette paix, c'est de venir à lui dans la prière, pour toute chose, à tout instant. Et on voit cet exemple de David Livingstone, que, aux yeux du monde, il a beaucoup laissé de côté, mais il n'a jamais fait de sacrifice, car il sait pourquoi il vivait. Et qu'il avait un trésor au ciel. Prions. Seigneur, je veux te remercier pour ce passage qui nous rappelle que tu es un Dieu bon, que nous pouvons venir à toi avec toutes nos demandes, toutes nos supplications. Seigneur, je veux te prier que tu nous donnes de dépendre de toi, que tu nous montres notre impuissance, notre faiblesse, et que tu nous donnes de demeurer dans ta paix. Que nous ayons conscience de ta bonté, de ta toute-puissance, de ta volonté de nous voir prospérer, que tu veux nous donner ce qui est bon pour nous. Père, je te prie que tu nous donnes cette habitude de venir à toi dans la prière, à chaque instant, pour toute chose, que tu nous donnes de diminuer, que tu grandisses dans nos vies. Seigneur, que tu nous encourages en nous donnant ta paix, en nous donnant ta joie. Au nom de Jésus. Amen.